Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire du programme commun de la gauche. En 1972, dans une France dirigée par la droite depuis 1958, socialistes, communistes et radicaux de gauche s'allient autour d'un projet mêlant mesures sociales, économiques et institutionnelles. Ce programme commun de gouvernement va devenir l'étendard de la gauche pour la conquête du pouvoir. Mais après de belles victoires électorales, et lorsqu'il s'agira d'actualiser ce programme en 1977 sur fond de crise économique, le poison de la désunion va sévir. Car si l'adversaire désigné est bien la majorité présidentielle de droite, sous la houlette de Giscard, un autre match se joue au sein même de la gauche. Socialistes et communistes se disputent le leadership, alors que les radicaux de gauche faire valoir du projet comptent les points. De François Mitterrand à Georges Marchais, du congrès d'Épinay à la présidentielle de 1974, c'est donc un voyage dans la gauche des années 70 que nous vous proposons, celle qui en 1981 finira par décrocher le Graal, l'Élysée. Notre invité aujourd'hui, Michel Vinocq, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, historien, spécialiste de l'histoire de la République française et des républiques, il y en a cinq, spécialiste des mouvements politiques également, du socialisme, auteur de nombreux ouvrages, il vient de publier et de diriger aux éditions Perrin le livre collectif intitulé « Les figures de proue de la gauche depuis 1789 ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste.
Comme le disait Guy Mollet en 1959, François Mitterrand a appris à parler le socialiste au sein d'un PS qui, contrairement à son cousin social-démocrate allemand, n'a pas fait son Bad Godesberg. Non. Les socialistes français fleurent bon les idées marxistes que Mitterrand semble porter haut et fort ce jour-là à Épinay devant le congrès qui réunit près d'un millier de délégués. Ce 13 juin 1971, l'enjeu est d'unifier la plupart des courants de la gauche non communiste dans le but de s'unir ensuite avec les communistes. Tel est le message de François Mitterrand entre les lignes, il va falloir s'y habituer. L'ancienne SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, devenue parti socialiste depuis 2 ans, reste sur un échec électoral cuisant. En 69, Gaston Defferre a terminé 4e de l'élection présidentielle avec seulement 5% des suffrages. Pire que Benoît Hamon en 2017, jamais les socialistes n'étaient descendus aussi bas. La même année, Alain Savary est élu premier secrétaire du parti avec une voix d'avance sur Pierre Mauroy. Savary, c'est le protégé de Guy Mollet. Car le dirigeant historique de la SFIO depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'homme de la 4e République, respire encore. Il continue même de tirer les ficelles du parti. Pour mettre toutes les chances de son côté, François Mitterrand est prêt à tout, même à tricher sur les chiffres. Oh, un petit exercice de gonflette de bonne guerre lors des congrès du PS. Alors qu'on lui attribue le vote d'une dizaine de milliers de militants, il confiera plus tard à Jean-Pierre Chevènement qu'il n'en avait même pas 500. Pierre Jox, proche de François Mitterrand, avouera bien plus tard, lui, dans les colonnes du Monde, que la fraude était généralisée.
Tout le monde a triché sur le nombre de ses adhérents. Les adhésions et les chèques de cotisation arrivaient chaque matin par la poste au domicile de Roland Dumas, sur l'île Saint-Louis, à Paris. Il y avait des Picasso au mur. J'attendais le facteur et j'ouvrais le courrier. En comparant le nombre d'adhérents annoncés et le total des cotisations, c'était facile de voir les entourloupes. Mais si les chiffres étaient faux, les proportions étaient exactes.
Fin stratège, François Mitterrand sait bien qu'il lui faut trouver d'autres appuis pour prendre la tête du parti. Il s'assure donc les voix de Pierre Mauroy et de Gaston Defer. Les deux hommes qui font figure de modérés représentent la motion dite des Bouches du Nord, soit les deux plus fortes fédérations socialistes. Mauroy tient celle du Nord et Defer celle des Bouches du Rhône. Pour faire basculer le vote, François Mitterrand se tourne également vers la motion du CRS, la plus à gauche du parti, menée par Jean-Pierre Chevènement. Grâce à cette alliance hétéroclite, forgée notamment par un rejet de Guy Mollet, Mitterrand arrache la place de premier secrétaire, lui qui n'est membre du parti que depuis 2 jours. Il a désormais les mains libres pour mener son projet, la conquête du pouvoir, autrement dit l'Élysée, là où tout se passe, dans cette 5e République où son président, quel qu'il soit, peut dire « La France et moi ». Pourtant, en 1964, dans son ouvrage « Le coup d'État permanent », François Mitterrand n'a cessé de vilipender le régime présidentiel. Et puis un an après ce pamphlet seulement, voilà que le même Mitterrand décide de tenter sa chance à la première élection présidentielle au suffrage universel. Nous sommes en 1965, on connaît la suite. Le général malmené, le général contraint à un second tour devant celui qu'il ne nommait jamais, dit-on, autrement que par le personnage dont vous me parlez. Eh bien, le personnage s'incline au second tour, certes, mais réalise un score impressionnant, près de 45% des voix. François Mitterrand et bien d'autres en sont maintenant persuadés. Le système électoral pour la présidentielle qui limite la présence à 2 candidats au second tour va conduire à une bipolarisation de la vie politique française. Ça veut dire que pour gagner, il faut rassembler son camp. Rassembler la gauche, en l'occurrence, pour affronter la droite qui semble avoir fait de la 5e République une chasse gardée. C'est dans cet ordre d'idées qu'en cette année 71, François Mitterrand décide de se rapprocher des communistes. Pierre Mauroy confirme la démarche lors de son discours au Congrès d'Épinay.
La gauche a besoin de la participation du Parti communiste pour battre la droite et la réaction et pour pouvoir avoir en France un gouvernement de gauche. Mais de la même façon, camarades, une gauche dominée par le Parti communiste n'a aucune chance d'accéder au pouvoir. Une gauche dominée par le Parti communiste serait le plus beau cadeau que nous pourrions faire à l'UNR.
Une alliance donc, mais pas d'inféodation au Parti communiste qui, rappelons-le, est à l'époque le parti le plus puissant à gauche. Pour François Mitterrand, l'objectif est même très clair, encore plus clair, inverser le rapport de force. Oui, ce sera son premier grand dessein sur la route qui doit le mener à l'Élysée. Mais cette fameuse rupture avec la société capitaliste énoncée dans son discours n'est qu'une posture stratégique. Mitterrand marxiste l'a-t-il été seulement un jour. Mais devenu premier secrétaire du parti, il doit parler et porter le socialisme. Se couvrant désormais d'un chapeau à large bord, portant un long manteau et une écharpe rouge, il donne même dans le style Léon Blum. Lors d'un rassemblement, la veuve de l'ancien leader du Front Populaire dit en apercevant Mitterrand « On dirait Léon !» Après avoir réussi son OPA sur le Parti Socialiste, morceau de choix en termes de manœuvre politique, un must même, et le premier d'une longue série, François Mitterrand poursuit sa route longue et appliquée, laissant du temps au temps, par philosophie autant que par nécessité. Prochaine étape, le programme commun. Un programme pour renverser la droite.
Le plus dur est fait. Alors maintenant, je crois qu'on peut vous souhaiter un bon appétit bien mérité.
Trois mois après le congrès socialiste, à quelques kilomètres d'Épinay-sur-Seine, un autre rassemblement se tient dans une autre ambiance. Nous sommes en septembre 71, à la Courneuve, en banlieue parisienne. Des centaines de milliers de Français se rassemblent le temps d'un week-end sur plus de 47 hectares de pelouse, imaginez, 15 fois la place de la République à Paris. Les visiteurs ont de quoi se divertir entre les manèges, la patinoire, le grand théâtre et une quarantaine de stands où l'on peut venir boire et manger les produits venus du monde entier. Les promeneurs convergent ensuite vers la grande scène et assistent à de nombreux concerts. Cette année-là, la tête d'affiche, c'est la chanteuse américaine John Baez. Protest song à la fête de l'UMA, festif et cohérent. Ce grand raout populaire, fête de l'UMA pour les habitués, est là, aujourd'hui encore, festive et cohérente. Si les gens viennent pour s'amuser, on en profite pour militer et faire passer des messages politiques tout de même. Étienne Fajon, directeur du journal L'Humanité et secrétaire du comité central du Parti communiste, monte sur scène et prononce un discours.
Nous sommes prêts à l'entente avec le Parti socialiste. Bien sûr, il s'agit d'aboutir non pas à un accord de circonstances, mais à un programme commun de lutte et de gouvernement, définissant clairement les mesures fondamentales que nous voulons promouvoir et appliquer ensemble pour le peuple et avec le peuple.
Pour le peuple et avec le peuple. En cette année 1971, le Parti communiste rassemble plus de 25% des suffrages, bien installé et depuis des années devant le PS. Avec près de 5 millions d'électeurs, fidèles et 300 000 adhérents, le PCF peut compter sur une grande force de frappe militante, affichage, meeting et vente de journaux. Le parti dispose également d'une bonne implantation dans les milieux scolaires et universitaires et d'un leader, Georges Marchais, qui fait l'événement dès qu'il passe à la télé. Oui, avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il nous fait entrer dans le monde de la politique spectacle, petit théâtre dont la télé se fait l'écho. Enfin, les communistes français sont soutenus par deux poids lourds. La CGT d'abord. Avec des effectifs dépassant les 1,5 million de salariés, la première centrale syndicale française assure au PC un ancrage sans faille dans le monde ouvrier. Et puis il y a le grand frère soviétique, bien sûr. Jean, chef de bande, qui donne argent et, accessoirement, quelques consignes. Voilà pour les présentations, place aux discussions. Désormais liés, PS et PC vont accélérer le processus de rapprochement pour élaborer ce programme commun de gouvernement. L'objectif visé tout proche, ce sont les législatives de 1973. Alors, pendant des mois, on discute, on négocie, on élabore la plateforme. En octobre 71, Georges Marchais présente le programme du Parti communiste intitulé « Changer de cap ». 5 mois plus tard, les socialistes publient le leur « Changer la vie », en référence à un poème d'Arthur Rimbaud. Le 27 juin 1972, les deux leaders se présentent devant la presse pour une déclaration commune.
Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement. Elles ont décidé de soumettre ce programme à l'approbation de leurs organismes de direction respectifs. Le texte en sera remis à la presse le 27 juin à 17h au siège du Parti Socialiste.
Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand dans les entreprises, les villes et les villages de ce pays parmi les forces ouvrières démocratiques et nationales. C'est un événement d'une très grande importance.
Ce programme de près de 200 pages se décline en 4 chapitres. Social et sociétal, économique, institutionnel et diplomatique. Parmi toutes les propositions, on retrouve notamment la hausse des salaires, l'abaissement de l'âge de la retraite, la réduction du temps de travail, la majorité à 18 ans, un programme de nationalisation, l'abolition de la peine de mort et la fin des essais nucléaires. Un programme solidement ancré à gauche qui n'empêche pas le modéré Robert Fabre de le signer également au nom des radicaux de gauche. Radicaux dans le sens racine, héritage de la gauche cassoulet qui a gouverné la Troisième République. C'est ainsi que le 12 juillet 72, François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre signent le programme commun de gouvernement à l'Hôtel Continental. c'est le début d'une lune de miel qui se poursuivra jusqu'au 1er décembre 1972 et la tenue d'un grand meeting unitaire entre socialistes, communistes et radicaux. On ne parle pas de gauche plurielle à l'époque, on aurait pu.
Mesdames, messieurs, chers camarades, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la plus grande assemblée jamais réunie par la gauche.
C'est ici, au parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris, qu'une grande annonce est faite. Le mariage à trois a déjà porté ses fruits, on annonce une naissance. France Inter relate la scène.
Les dizaines de milliers de personnes présentes à la Porte de Versailles ont appris avec surprise la naissance d'un bébé dans les coulisses pendant que le spectacle se poursuivait sur scène. Mais la naissance de ce bébé de l'Union de la Gauche a immédiatement motivé une interruption du spectacle, une naissance annoncée d'une voix enthousiaste.
Le bébé de l'Union de la Gauche est né ce soir au Palais des Expositions au cours de ce meeting. Et je crois, Lénie Scudéron, que c'est un signe très favorable.
Oui, j'espère qu'il aura plus de chance que moi, parce que lui, il aura peut-être la chance de vivre avec un véritable pouvoir démocratique. Moi, je n'ai jamais connu que des pouvoirs capitalistes, toute ma vie.
Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras.
Et dans la foule, tous les militants rêvent non pas d'amourette, mais de changement et de grand soir. Alors, quand François Mitterrand, l'homme de la rupture avec la société capitaliste, monte à la tribune, l'Assemblée est toute oui.
Je vous dis d'abord, l'union. Ensuite, l'union sur un programme commun. Enfin, l'union sur un programme commun de gouvernement. Parce qu'après tout, il ne faudrait pas l'oublier, on peut avoir des distractions, ça arrive. Nous sommes ici pour gagner les élections. Nous sommes ici pour gouverner. Nous sommes ici pour l'emporter.
Face à des troupes de gauche en ordre de bataille, avec un général en chef tel que Mitterrand, la droite commence à douter. Et elle a raison. Le risque de basculement de majorité à gauche aux législatives de mars 73 est bien réel. Et auquel cas, la France vivrait sa première cohabitation. Le Premier ministre Pierre Messmer en est conscient. Selon lui, l'Union de la Gauche, hier simple cartel électoral, propose une solution de rechange au régime qui, depuis 15 ans, gouverne la France. Ainsi, l'argument bien connu du général de Gaulle, moi ou le chaos, tombe. Voilà pour le constat. Désormais, il n'y a plus de Gaulle d'un côté, le chaos à gauche. Non, il y a deux blocs qui s'affrontent, et c'est le coude à coude dans les sondages. Le 7 janvier 73 à Provins, lors du congrès de l'UDR, le parti gaulliste qui dispose de la majorité absolue à l'Assemblée, Pierre Messmer en son nom, propose un discours aux allures de programme. Et il en profite pour cogner sur l'Union de la Gauche.
Des transformations profondes interviendront dans notre vie économique, sociale, culturelle. Vont-elles dégénérer en dictature collectiviste ? Et se dégrader en un morne régime totalitaire, tout en provoquant secousses, désordres et désespoir.
Et c'est bientôt les chars soviétiques dans la rue, bêtise qu'on entendra plus tard, en 81. Pour la droite, en tout cas la gauche, est un péril majeur. Hors de question que ces gens-là prennent le pouvoir. Alors, Messmer agite le chiffon rouge, la peur du communisme est toujours forte. En France, il le sait, c'est un filon à exploiter. Eh bien, par micro interposé, François Mitterrand répond au Premier ministre sur un registre où il excelle. L'ironie vacharde.
Ils font aujourd'hui un rassemblement unitaire à Provins. Et puis, ils critiquent beaucoup notre programme commun, mais ils vont avoir un programme. Nous ne savions pas ce que voulait faire la majorité tant qu'elle gouvernait. Nous allons le savoir à compter du moment où elle ne gouvernera plus, c'est-à-dire à partir du mois d'avril prochain.
Un partout la balle au centre. C'est désormais aux électeurs de se prononcer. Ils doivent donc choisir entre la majorité présidentielle de droite et l'Union de la Gauche, bloc contre bloc, le rideau de l'isoloir se fait rideau de fer. Le 4 mars 73, au soir du premier tour des législatives, rien n'est joué. 430 sièges sur 488 sont en ballotage. L'Union de droite rassemble 38% des suffrages, celle de la gauche 43%. Mais c'est le Parti socialiste qui réalise la meilleure opération. 19% des voix à 2 points désormais du PC. La gauche efface aussi les mauvais scores des législatives de 68 et peut espérer renverser la majorité. Bref, une pierre deux coups. Le 11 mars 73, au soir du second tour, des millions de Français sont scotchés devant leur télé. Quelques secondes avant 20h, le compte à rebours est affiché sur l'écran.
La majorité garde la majorité. Elle obtient entre 260 et 300 sièges.
La gauche maintenant, le Parti socialiste, les radicaux de gauche et les PSU, de 100 à 115 sièges. Enfin, le Parti communiste, de 65 à 80 sièges.
Ce n'est donc pas encore le grand soir pour l'Union de la gauche. Mais les méthodes de l'Union est payante. Les socialistes et les communistes retrouvent des couleurs. Le Parti socialiste a multiplié son nombre de sièges par 2 pour atteindre la centaine de députés. La même année, en octobre 73, le choc pétrolier secoue la planète et sonne le début de la fin pour les Trente Glorieuses. L'année suivante, le 2 avril 74, c'est un autre choc. À 22h15, un flash d'information interrompt le film diffusé dans l'émission Les Dossiers de l'écran.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir.
Ce décès bouleverse les Français et le quadrille politique, bien sûr. La campagne présidentielle est organisée en urgence. Le 26 avril 1974, un meeting Porte de Versailles rassemble une nouvelle fois socialistes, communistes et radicaux. Georges Marchais et Robert Fabre apportent leur soutien au candidat unique de l'Union de la gauche, François Mitterrand. À 57 ans, près de 10 ans après sa première campagne présidentielle, le numéro 1 du PS, le contempteur de la 5e République, celui qui avait tant combattu le président tout-puissant, se verrait bien le devenir. Et cette fois, face à lui, la droite se divise avec deux candidatures, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas. Autrement dit, la victoire tend les bras à la gauche.
Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs. À l'époque, ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon. Avant qu'on les enferme dans des micro-sillons, ils juraient, ils sacraient, insultaient les bourgeois, mais savaient offrir des fleurs aux filles de joie. Quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait, à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Ils traversaient la vie comme des arlequins. Certains le sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la Légion d'honneur qui l'eût cru. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas beaucoup vieilli. Allez voir, on dirait qu'ils auraient rajeuni. Le cheveu est plus long, la guitare toujours là. C'est toujours l'ami Georges qui donne le la. Mais tout comme lui, ils ne savent toujours pas rejoindre le troupeau ou bien marcher au pas. Dans les rues de Paris, sur les routes de province, Il m'en dit quelquefois avec des airs de prince en chantant des chansons du dénommé Brassens.
Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Je suis le seul candidat qui ait dit à toute la France, je ne récuse aucun Français. Et je me permets, Monsieur Giscard d'Estaing, parce que le débat est vraiment grave là-dessus. L'anticommunisme, vraiment, il faut s'en débarrasser. Les tragiques périodes du temps de Staline, les grandes divisions qui ont séparé l'Europe, vraiment, Monsieur Giscard d'Estaing, pensez à l'avenir. Ne chassez aucune des forces de la production. Ne coupez pas la France en deux.
Pensez à l'avenir, ne coupez pas la France en deux. Malheureusement pour François Mitterrand, la formule n'a pas imprimé auprès du grand public. Non, dans ce débat du second tour de l'élection présidentielle, c'est le scud de Valéry Giscard d'Estaing qu'on a retenu, le cinglant. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Tout comme l'agressif, vous êtes un homme du passé, monsieur Mitterrand. On ne saura jamais quel a été l'impact réel de ce débat télévisé, de ces petites phrases sur le choix des Français. Ce qu'on mesure en revanche, et encore mieux avec le recul comme d'habitude, c'est le positionnement extrêmement pertinent de VGE dans cette campagne, en cette année 74. Entre un pouvoir gaulliste qui commence à sentir la naphtaline, et une gauche qui fait encore peur aux Français, le candidat de la droite centriste propose le compromis idéal entre ces deux logiques politiques. Et puis, ce sens aigu de la com. Giscard joue au foot, Giscard joue de l'accordéon, Giscard conduit sa voiture lui-même, et au bout du compte, Giscard à la barre, d'un cheveu rabattu sur son crâne déjà dégarni. Il l'emporte sur le score de 50,81%, soit l'écart le plus faible de toutes les élections présidentielles de la 5e jusqu'à aujourd'hui encore. Dans son fief de Château-Chinon, François Mitterrand encaisse. Mais pas si mal que cela, dit-on. Non. Devant ses militants, il n'est pas battu. D'abord pour des raisons personnelles et familiales qui ne regardent que lui, et surtout pour des raisons politiques qui regardent tout le monde, il fait comprendre à ses troupes que cette défaite est pleine de promesses, bien vues. Car François Mitterrand sait qu'il sort grandi de cette élection. Il s'est imposé comme l'incarnation de la gauche unifiée. En attendant, d'autres combats électoraux plus modestes se profilent pour l'Union de la gauche. En mars 76, ce sont les élections cantonales. Un mois plus tôt, le Parti communiste se réunit lors de son 22e congrès. Et Georges Marchais, prêt pour faire la révolution. Une révolution sémantique. Sur le plateau de l'émission C'est-à-dire, il annonce qu'il envisage d'abandonner l'un des totems du PC, la dictature du prolétariat.
D'abord, le mot dictature ne correspond pas à ce que nous voulons. Il a pris une signification insupportable. Il porte la contradiction à nos thèses. Nous n'allons donc pas conserver une formule qui porte la contradiction à notre politique. Et même le mot prolétariat, qui scientifiquement garde sa valeur, mais le mot prolétariat, lui aussi, ne convient plus. N'est-ce pas? Nous avons maintenant la classe ouvrière, les travailleurs. Nous voulons rassembler tous les travailleurs.
Cette décision intervient au même moment que le rapprochement avec les partis communistes italiens et espagnols dans le cadre de ce qu'on a appelé l'eurocommunisme, une prise de distance avec la tutelle soviétique. C'est dans ce contexte de mutation que l'Union de la gauche se présente aux élections cantonales de 76. Et le résultat est sans appel, c'est une victoire des partis de gauche, près de 52% des voix. Et c'est à coup de semonce pour le gouvernement de Jacques Chirac, premier ministre de Giscard, après avoir trahi Chaban pour y parvenir et avant de trahir Giscard pour y revenir, sous Mitterrand, trapéziste. Ce qu'on retient aussi et surtout de ces cantonales, c'est le score impressionnant du PS. Avec plus de 26%, il devance de 4 points le PC. Une première depuis 1945. Le Parti Socialiste a réussi sa mue. Dans cette société post-mai 68, il se place comme le premier représentant des aspirations sociales et sociétales de nombreux Français. Rendez-vous est donc pris pour les municipales un an plus tard. Le 20 mars 1977, c'est la confirmation. L'Union de la gauche surfe sur la vague des cantonales. Le journal Le Monde parle de raz-de-marée. Le total ne s'élève pourtant qu'à 50,8% pour la gauche. Mais le tournant est pris. François Mitterrand, qui connaît si bien les rapports de force sur l'échiquier politique, c'est l'un de ses grands talents, exprime sa satisfaction en direct de son fief de Château-Chinon, où il vient lui-même d'être élu.
Je constate que la gauche se porte bien. Je constate qu'elle a su dominer ses problèmes. Je constate que le pays lui fait confiance et pour l'instant, cela me suffit.
Malgré son tempérament réservé, François Mitterrand peut exulter. Les socialistes gèrent maintenant plus d'un tiers des villes de plus de 30 000 habitants. Chez les communistes, le bilan est très bon également, mais on voit d'un mauvais œil l'irrésistible ascension des alliés socialistes. En ce mois de mars 1977, l'Union de la gauche confirme son efficacité lors des scrutins locaux. Il s'agit maintenant de préparer la prise de pouvoir au niveau national. Socialistes, communistes et radicaux ont un an pour se préparer au prochain grand rendez-vous, les législatives de 1978. Dès le 31 mars, les communistes proposent d'actualiser le programme commun. Ah oui, il a déjà 5 ans, la crise économique qui s'est installée change la donne. Les communistes veulent étoffer le volet social et augmenter le nombre de nationalisations. Les socialistes, qui sont désormais en position de force, ont pris le tournant social-démocrate, cette doctrine qui consiste à prendre en compte les contingences économiques, une prise avec le réel. Et puis, il y a aussi la question du nucléaire et celle des institutions européennes, autant de points de discorde entre coco et socialo, comme on dit à l'époque. Quinze négociateurs sont nommés. À cela s'ajoutent les passes d'armes par médias interposés. Les communistes sont méfiants. Ils vérifient systématiquement que tous les engagements sont bien consignés dans le nouveau programme. Et l'été 77 est très mouvementé. Georges Marchais racontera 2 ans plus tard cette période de tension sur le plateau de Cartes sur Table.
Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là.
Au-delà du moment culte de télé, comme seul sait les provoquer Georges Marchais, Liliane fait les valises, on n'est pas prêt d'oublier celle-là. L'anecdote montre en tout cas à quel point le divorce entre les formations de la gauche est consommé dès l'été 77. D'ailleurs, en septembre, c'est l'escalade. Le 9, Georges Marchais déclare qu'il n'exclut pas la possibilité d'une rupture. François Mitterrand rétorque « oui au programme commun, non au programme communiste ». Réunis le 14, socialistes, communistes et radicaux s'écharpent sur la question des nationalisations. Et cette fois, c'est Robert Fabre, le patron des radicaux de gauche, qui sort de ses gonds. Il débarque en salle de presse et grille la politesse à Georges Marchais.
Les radicaux de gauche ont participé à cette réunion au sommet avec la volonté d'aboutir à un accord renforçant l'union de la gauche grâce à un programme commun répondant aux aspirations des Français et aux réalités de notre temps. Il regrette de constater que le Parti communiste a maintenu ses nouvelles propositions, bouleversant les principes et les équilibres sur lesquels avait été fondé le programme de 1972. Dans ces conditions, la délégation du MRG estime, dans l'intérêt même de la gauche, que l'actuelle réunion au sommet ne peut se poursuivre.
Robert Fabre revient finalement à la table des négociations, mais l'accord n'est pas trouvé. Le 23 septembre, à 1h14, la messe est dite. Le programme commun ne sera pas actualisé. Chaque formation ira donc aux législatives et jouera sa propre partition. Et ce qui devait arriver arrive. 6 mois plus tard, la gauche perd les législatives alors que tout le monde annonçait son triomphe. Mais une fois de plus, le Parti socialiste, avec 113 députés, supplante le Parti communiste et ses 86 élus. Et si l'essentiel était là pour François Mitterrand, dominer la gauche pour ravir le pouvoir à la droite? 3 ans plus tard, sa victoire à la présidentielle apporte la réponse, c'était bien cela. D'ailleurs, en 84. N'en pouvant plus d'avaler les couleuvres social-démocrates, les communistes quittent le gouvernement. Jamais plus ils ne retrouveront leur influence.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côtes-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la rupture du programme commun de la gauche en 1977, dont nous allons parler avec notre invité Michel Vinocq. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à Sciences Po Paris, historien, spécialiste de la République française, des mouvements politiques, du socialisme et de beaucoup de choses qui se rapportent à notre histoire contemporaine, auteur de nombreux ouvrages. Vous faites paraître et vous dirigez un livre collectif, hein, avec autant de signatures que de portraits, qui s'appelle « Les figures de proue de la gauche » depuis 1789, ça paraît là, ces jours-ci, enfin ce mois-ci. Un mot de cet ouvrage, alors moi j'ai beaucoup aimé le fait que vous commenciez par Condorcet, le père de la gauche. Ça interpelle, c'est intéressant, hein.
Oui, c'est Mona Ozouf
qui écrit ça.
Ouvre ce livre avec le portrait de Condorcet, et c'est elle qui prononce, qui écrit... Cette affirmation, c'est le père de la gauche, Condorcet. Pourquoi ? Ben parce que Condorcet est le défenseur de la raison contre la tradition. C'est l'homme qui pense à l'avenir et qui rejette le passé. Et du reste, on doit à Condorcet, si vous voulez, l'idée majeure de progrès. Le progrès de l'esprit humain. Donc ça, c'est typiquement de gauche par rapport à cette tradition qui fondée sur notamment la religion, l'Église catholique, la monarchie, exalte au contraire une continuité dans la coutume, une continuité dans les mœurs, dans la hiérarchie. Alors Condorcet a une autre qualité, c'est que il fait le pont entre les Lumières, la philosophie des Lumières et la Révolution.
Des Lumières qui se seraient bien accommodées d'une monarchie constitutionnelle, par exemple. Bah, alors que lui est plus dans son époque.
Ni Voltaire, ni Diderot ne pensaient à l'idée d'une révolution. Oui. Bien entendu, il voulait un changement de monarchie. Une monarchie limitée, comme on disait. Une monarchie constitutionnelle. Mais non pas la fin de la monarchie, certainement pas. Condorcet, lui, non seulement est un acteur, un philosophe et un acteur de la Révolution, mais il est un des tout premiers révolutionnaires à comprendre que l'avenir, c'était la République. Mmh. Et ça se passe au moment de Varennes. Lorsque
la fuite de Varennes.
Mmh. Lorsque le roi a quitté Paris pour fuir à l'étranger, qu'il est rattrapé à Varennes, pour lui, il n'y a pas de doute, c'est fini. Mmh. Il faut la République.
Donc on pourrait lui devoir cette notion simple, mais juste des forces conservatrices et des forces de progrès, finalement.
Oui, bon. Certainement.
On va faire de Condorcet à Mitterrand, il n'y a qu'un pas de plus de 200 ans. 1971, Michel Vinocq, vous considérez, vous aussi, que c'est le discours fondateur du processus de prise de pouvoir, du pouvoir de celui qui compte en France, l'Élysée, par les socialistes et par Mitterrand et par la gauche.
Oui, certainement. Cependant, dans ce livre que nous évoquons, on voit bien à travers toute cette galerie de portraits que la gauche, au fond, n'existe pas. Elle n'existe pas au sens de singulier, au singulier.
Oui, c'est les
gauches. Il y a des gauches.
Bien sûr. Comme il y a des droites d'ailleurs, une droite orléaniste nationale et bonapartiste.
Exactement. Pareil. Et nous sommes là devant vraiment l'exemple même d'une union. Il y en a eu quelques-unes, mais elles ont été éphémères.
Il y a eu le Front Populaire, c'était exactement. Une union. Il y a eu la gauche plurielle de Jospin, ce
sont des unions. Exactement, ça ne dure pas.
Oui.
Et là, on a l'impression que ça va durer, parce qu'il y a un programme commun qui va être signé entre les deux partis, les deux grands partis de la gauche, communistes et socialistes. Mais au fond, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, si vous voulez, un mot sur Mitterrand. Parce que c'est lui qui est évidemment l'acteur de cette union. Vous savez, Machiavel distingue deux types de politiques, les lions et les renards. Mitterrand est un renard. C'est un homme rusé, qui a moins l'esprit, je dirais, doctrinaire, que l'esprit de la stratégie du pouvoir.
Ça, c'est Épinay. C'est le discours d'Épinay marxisant, alors qu'il n'est pas marxiste.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en 58 déjà, avec le changement de régime, il a pris ses marques. Il sera l'adversaire, irréductible.
L'opposant.
Numéro un.
Ouais.
Et effectivement, il le devient au point qu'il est le candidat en 65. Mais il y a surtout l'élection du président au suffrage universel, avec ses deux tours. Donc un deuxième tour où il faudra forcément que les différentes gauches, comme les différentes droites, mais à droite c'est De Gaulle, mais en face, il faudra nécessairement qu'il y ait une union. Et il a compris par conséquent que on ne prendrait jamais le pouvoir sans l'alliance avec le Parti communiste.
Ce qu'il semble avoir compris aussi, une pierre deux coups, c'est qu'il faut inverser le rapport de force qui est favorable pour l'instant aux communistes. C'est ça la stratégie.
Rééquilibrer. Tel est le principe. Mais avec un effort d'imagination, essayons de comprendre que c'est tout à fait extraordinaire cette stratégie, parce que nous étions encore dans la guerre froide. N'oublions
complètement
pas
dedans, même.
Que le Parti communiste, ouais. Que les chars soviétiques avaient brisé le printemps de Prague en 1968, que le Parti communiste était isolé.
Est-ce que je peux vous arrêter, Michel Vinocq? Pour une bonne raison, vous allez voir pourquoi, et vous allez continuer ce propos, évidemment, mais on va écouter tout de suite, en résonance de ce que vous dites, une archive de François Mitterrand, qui s'exprime dans l'émission Cartes sur table, on ne sommes en janvier 80. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, évidemment, sur la mainmise de l'URSS, précisément sur le Parti communiste français. Écoutez ce qu'il dit, je crois que vous êtes d'accord avec ça.
Je pense que l'Union soviétique n'a pas voulu, en 1977, que soit déstabilisée l'Europe occidentale avec des États-Unis d'Amérique, Kissinger s'était exprimé souvent à cet égard, proférant des menaces si les communistes parvenaient au gouvernement, soit en Italie, soit en France. Et d'une certaine manière, l'Union soviétique a préféré que ce problème ne se pose pas pour ne pas gêner les États-Unis d'Amérique en Occident, ne voulant pas que les États-Unis d'Amérique gênent l'Union soviétique dans ses possessions d'Europe centrale et orientale. Voilà la réalité telle que je la pense.
Ça a changé?
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est en train de changer de ce point de vue-là? En tout cas, je pense qu'il y aura assez de communistes et de dirigeants communistes pour estimer qu'ils n'ont pas durablement à déterminer les intérêts des travailleurs français, parce qu'après tout, les travailleurs français, je me demande ce qu'ils ont à voir pour servir leurs intérêts avec l'invasion des troupes soviétiques à Kaboul. Hein. Et les travailleurs français, ils savent très bien de quoi on parle. Ils n'ont pas envie non plus qu'on les amuse ou qu'on les détourne. Donc la direction du communisme, vous savez, elle est très sensible à tout cela. Et nous pensons, nous, qu'elle sera contrainte de réexaminer cette situation.
Alors, je vous ai coupé parce que vous êtes parti sur la notion selon laquelle on a un parti communiste adossé à Moscou et que, évidemment, ça change beaucoup de choses. Donc, je vous redonne la parole à la lumière de ce qu'il vient de dire François Mitterrand. Qui a fait un grand saut, il est arrivé en 77.
Oui, mais je reprends la suite, si vous voulez, du discours de Mitterrand. Mm-hmm. Il a certainement raison, mais je nuancerai parce que, au moment, justement, de la signature du programme commun, le Parti communiste avait manifesté une certaine autonomie, avec un calcul. Bien entendu, c'est une partie de poker entre les socialistes et les communistes, avec des arrière-pensées, et chacun croit que l'union va lui profiter. Et il y avait le précédent du Front populaire, car le Parti communiste, pour la première fois, avait réalisé l'union avec les socialistes et les radicaux, et tout l'avantage, il l'avait tiré pour lui, car l'émergence du Parti communiste en France date du Front populaire, où il fait un bond en avant électoral, et il va continuer sur sa lancée. Alors, il fait ce calcul que l'union lui est nécessaire pour élargir sa base, et que cette union ne peut que lui profiter. Du reste, il est très puissant, vous l'avez dit, par rapport au Parti socialiste. Alors, il est certain que Mitterrand fait un pari. Il fait un pari en se disant que l'alliance avec les communistes pourrait bien, au contraire, profiter d'un rééquilibrage au profit du Parti socialiste. Il y a des arrière-pensées comme cela dès le début. Que font les soviétiques, alors, qui ont toujours eu la main sur le Parti communiste? Là, on se le demande. Parce que en 74, tout de même, il y a cet incident assez étonnant que l'ambassadeur soviétique rend visite à Giscard. Et que Georges Marchais va dénoncer, va se plaindre de cette démarche. Vous voyez, bon, on peut dire c'est factice, quand même. Il y a quelque chose là qui prouve que les communistes ont acquis à ce moment-là, oui, je crois, une part d'autonomie. Seulement, ça va changer par la suite. Alors Mitterrand a raison, certainement, de dire que les communistes ne tenaient pas au succès de l'Union de la Gauche, bien sûr.
Pour ces raisons-là.
Et que lui-même, Mitterrand, était partisan de l'Alliance Atlantique.
Et c'est pour ça qu'on a dit aussi que Moscou aurait vu d'un mauvais œil, préféré la réélection de Giscard en 80 que celle de Mitterrand.
Bien sûr, tout à fait. Alors, il y a autre chose quand même. Vous l'avez dit vous-même, et c'est assez spectaculaire, c'est que à partir du moment où le programme commun est signé, dans toutes les élections qui vont suivre, élections partielles, élections législatives,
succès,
élections cantonales, élections municipales, à chaque fois, le Parti socialiste progresse au détriment du Parti communiste. Et ça devient insupportable. En 1974, Fajon écrit un opuscule qui s'appelle « L'Union est un combat », où il montre que il faut absolument que le Parti communiste garde l'hégémonie sur la gauche pour réaliser
le projet de gauche,
le projet du programme commun. C'est par le Parti communiste qu'on y arrivera. Et il révèle qu'il y a eu un rapport resté secret de Georges Marchais au lendemain de la signature du programme commun, où Georges Marchais dit en gros: eux, c'est eux, et nous, c'est nous. Eux, ce sont pas des révolutionnaires, ce sont des réformistes, des
sociaux-démocrates.
Oui, tandis, c'est nous la révolution. Et par conséquent, il va savoir se méfier. Alors que Mitterrand dit carrément, publiquement, il y a 5 millions d'électeurs communistes, eh bien, nous devons, sur ces 5 millions, en récupérer au moins 2 millions.
Alors, au bout du compte, selon vous, pourquoi le programme commun s'écroule-t-il en 77? Est-ce que c'est que par des stratégies politiques ou est-ce qu'il y a quand même des différences programmatiques importantes? Sur le fond.
Je dirais que Mitterrand, je l'ai dit du reste, n'est pas un doctrinaire. Et qu'au fond, le programme commun, à ses yeux, a un premier intérêt et peut-être un seul intérêt. C'est une étape stratégique vers la victoire politique à l'élection présidentielle. Alors, il concède, évidemment, aux communistes, les nationalisations, au nombre de 8 nationalisations, etc. On pourra dire que ce programme est complètement influencé par le Parti communiste et que les socialistes ont été les dupes, n'est-ce pas, du Parti communiste. Mais Mitterrand, pour Mitterrand, ce n'est pas important. Certes, à Épinay, il a pu dire, on l'a entendu,
oui, c'est formidable,
cette phrase incroyable, n'est-ce pas ?
Rupture avec le capitalisme. La Marx n'aurait pas dit mieux. Enfin, c'est...
Absolument. Bon, mais je ne pense pas qu'il le croyait vraiment.
Ben non, mais personne ne pense.
Et personne ne croyait qu'il le pensait. Oui. Bon. Mais c'était important pour lui de rendre le Parti socialiste crédible aux yeux du Parti communiste, aux yeux de la gauche, et par rapport à l'ancien Parti socialiste SFIO, qui avait été dominé, présidé par Guy Mollet, ouais. Et c'était aussi contre Guy Mollet qu'il fallait dire « Nous allons refaire un Parti socialiste qui sera un vrai parti de gauche, un parti marxiste, par conséquent. Ouais. » Alors, donc, les différences, je dirais, programmatiques, à ses yeux, je ne crois pas que ce soit le principal. Alors, il accepte néanmoins cette doctrine, alors que très profondément, il est social-démocrate, n'est peut-être pas le mot, mais enfin, disons réformiste, qui est plus juste. Il avait visité la Suède d'Olaf Palme. Il avait trouvé que
social-démocrate, on est bien d'accord.
Il avait trouvé les réalisations sociales de la Suède absolument magnifiques. Mais voilà, il accepte, si vous voulez, le contexte français, l'histoire française, la doctrine de la lutte des classes, etc. Le refus de tout compromis avec le capitalisme, qui est la base même de la social-démocratie. Et, autrement dit, encore une fois, il se fait opportuniste. Il accepte, il se met dans le moule, par conséquent, d'un parti de gauche, socialiste, qui retrouve ses sources de la lutte des classes et de l'anticapitalisme.
Et tout cela mènera ensuite à la victoire de François Mitterrand et donc de la gauche à la présidentielle de 81. Je vous propose d'écouter Georges Marchais qui s'exprime sur Antenne 2, on disait ça à l'époque, au soir de la victoire de François Mitterrand, donc au second tour de la présidentielle de 81.
Nous pensons que les obstacles, les difficultés sur le chemin du progrès de l'union de toutes les forces populaires seront surmontés dès lors que s'affirmera la volonté d'agir ensemble au service de cette politique nouvelle et des réformes démocratiques qu'elle implique. Cette volonté, pour notre part, nous l'avons. Le changement a absolument besoin pour se réaliser du Parti communiste, de son apport original, dynamique et créateur au mouvement populaire.
Et pour François Mitterrand qui a gagné, la question se pose maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces communistes? Eh bien, on en prend 4 gouvernements, dont d'ailleurs les personnalités les plus éclairées, hein, Charles Fitterman, Alice Le Port, ce sont des gens très, hein, très intéressants, pas si dogmatiques que ça. Finalement, et puis il y a cette anecdote de la visite de George Bush, père, qui était vice-président de Reagan à l'époque, qui vient voir François Mitterrand. Il s'inquiète, les États-Unis s'inquiètent de la présence de communistes au gouvernement. Je crois que Mitterrand leur répond un truc du genre, on verra à travers bientôt, je vais... Mieux vaut qu'ils soient chez moi qu'ailleurs, ils sont beaucoup moins dangereux, je vais les étouffer.
Oui, certainement. Oui. Mais Mitterrand, après la rupture de 77, a voulu rester fidèle à l'Union.
Oui.
Fidèle
d'où les quatre communistes.
En accusant les communistes de rompre. C'était eux les coupables, n'est-ce pas? C'est eux qui voulaient la rupture. Mais lorsque, après le premier tour, Mitterrand l'emporte très, très nettement sur le candidat communiste, alors à ce moment-là, les communistes, Georges Marchais en tête, vont se raccrocher, naturellement, pour le deuxième tour, pour sauver les meubles, dirons-nous. Mais attention, il n'est pas sûr. Il est même certain que Georges Marchais ne souhaitait pas la victoire de Mitterrand. On a des témoignages, Pierre Juquin et d'autres, qui nous racontent que Georges Marchais, autour de lui, non pas publiquement, mais privément, faisait voter contre François Mitterrand.
Même chose à droite, hein, Chirac et Giscard.
Absolument.
Chirac aurait fait voter François Mitterrand.
Un parallélisme intéressant.
Bien, oui. Michel Vinocq, on pourra en discuter encore des heures, tellement tout cela est passionnant, intéressant et sautillant, finalement. C'est la politique sur des valeurs et sur des discours. C'est le champ politique, c'est la société politique dont nous avons eu un échantillon pendant une heure. Merci infiniment, Michel Vinocq. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la rupture du programme commun de la gauche, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Patrick Henry, nous le remercions.